Et dernier rendez-vous de ce premier quartier d'été de la saison 2006, le lexique de l'actuel, la chronique de Pierre-Marc Debiasi. Je vous en rappelle le principe, chaque matin à 9h05, pas de quartier, ce sera la chasse aux expressions mal intentionnées, pardon, et aux tournures boiteuses qui nous font des trous dans la tête, société civile, arabo-musulmans, partenaires, entreprises, exclusion, élite, feuille de route. C'est fou le nombre d'expressions opaques, genre langue de bois, langue de plomb ou langue de rien du tout, des mots qui donnent l'air de parler pour ne rien dire. Eh bien, c'est le moment ou jamais de s'en débarrasser. C'est à vous, Pierre-Marc Debiasi, pour votre lexique de l'actuel.
Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler d'un mot en particulier, mais plutôt de quelques tournures particulièrement agaçantes, des tics subliminaux auxquels personne n'échappe, et qui finiraient assez vite par vous rendre fou, si vous commenciez à compter le nombre de fois où on vous les administre. Qui emploie ces mots creux? Tout le monde. La radio, la télé, vos amis, les hommes politiques, les stars, les gens people, les anonymes qui se parlent dans la rue, n'importe qui, vous-même ou moi à l'occasion. Des tics dans la langue, il y en a toujours eu des ribambelles. Ça va, ça vient, en général ça ne dure pas. Mais depuis quelque temps, il me semble que certains insistent, au-delà du raisonnable, c'est peut-être une impression, mais par exemple, je jurerais qu'on n'a jamais autant employé qu'aujourd'hui le mot « voilà », à tout bout de champ. Voilà, voilà quoi. Hier, j'ai compté 47 fois en 6 minutes, dans l'interview d'une jeune star charmante, qui avait d'ailleurs plein de choses passionnantes à nous apprendre sur ses goûts, ses dégoûts, ses projets. Enfin, quand même, 47 fois. Bien sûr, on pourrait croire que « voilà » a justement remplacé le « n'est-ce pas »,« n'est-ce pas », »,« c'est pas », un peu élitiste des années 50-60, le « tu vois », jeune et démocratique des années 70-80, tu vois quoi? Ou le 1, franco-belge et postmoderne des années 90-2000. Au fond, l'idée reste la même, ça signifie, et c'est un peu de comprendre ce que je viens de te dire, c'est évident non. Mais voilà, il me semble, appartient à un nouveau régime de parole. Le mode accéléré, la communication orale à l'âge des cycles courts. En rhétorique, voilà est considéré comme une anaphore. Un mot qui sert à se reporter à ce qui a déjà eu lieu, à ce qui a été dit. C'est le contraire de voici, de la cataphore, qui sert à annoncer ce qui va bientôt venir. Voici est de moins en moins employé. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps de prévenir. Plus de temps à perdre en annonçant ce que l'on pourrait déjà avoir dit, ce qui permettrait d'en être déjà à parler d'autre chose. Si ça lambine, l'auditeur zappe, l'interlocuteur regarde sa montre. Moins on a de temps, et plus vite il faut aller à l'essentiel. Voilà en deux mots ce que j'avais à vous dire. 17 morts du côté palestinien, 2 blessés du côté israélien, voilà ce qu'on peut dire ce soir de la situation dans la bande de Gaza. Voilà en bref, voilà voilà. Voilà mime la pensée en action. Je me résume pour que vous compreniez bien où j'en suis arrivé dans mon raisonnement. Et s'il n'y a pas de raisonnement, raison de plus pour noyer le poisson. Mais le sens de voilà change avec la voix. Voilà, ou voilà quoi, avec une intonation qui finit sur un registre élevé, voilà. Voilà quoi. Signifie, vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense. C'est mon droit de penser comme ça, et tant pis pour vous si je vous ai pas convaincu. Voilà, avec la voix qui tombe, conclut de manière péremptoire. Voilà. Sur ce point, il n'y a rien à ajouter, passons à autre chose. Voilà, avec la voix qui reste perchée, voilà, exprime le droit imprescriptible de l'individu à faire de son propre point de vue une manière absolue de voir les choses. Voilà résume en cours de route une pensée qui cherche à convaincre, en un temps record, mais il sert aussi à faire le point pour trouver sur quelle idée enchaîner, tout en rendant la parole expressive, personnelle, en semant l'interlocuteur de vous comprendre à demi-mot, en lui offrant l'impression de la plus complète sincérité. Voilà, je vous ai parlé à cœur ouvert. Voilà, on appelle implicitement au consensus, c'est-à-dire forcément au stéréotype. Mais même avec beaucoup de clichés et plein de voilà, il y aura toujours l'interlocuteur mal intentionné qui va prendre l'air dubitatif. Ou bien, plus embêtant, la grosse énormité qui vous a échappé et que vous avez confirmé forcément par un voilà bien senti. Alors là, que faire? Pas d'affolement. Il suffit de dégainer le jumeau de voilà. La formule cataphorique qui a remplacé le vieux voici hors d'usage. Vous allez dire, c'est vrai que, ou même simplement, c'est vrai. Ça laisse attendre une vérité et ça vous offre une seconde de réflexion pour rectifier le tir, changer carrément de sujet ou dire le contraire de ce que vous veniez d'affirmer. Et tant pis cette fois pour le temps perdu. De toute façon, si c'est vrai que ne suffit pas, restez calme. Vous disposez encore de toute une panoplie de cataphores pour bien faire comprendre votre nouvelle idée en indiquant que là, vous atteignez le cœur de votre pensée. Il vous suffit de placer soit juste avant, soit juste après, une formule comme « je dirais, j'allais dire, on va dire, j'avais envie de dire, j'ai envie de dire ». Voilà quoi. En fait, vous avez compté combien de fois j'ai dit « voilà » en 5 minutes ? 25 fois, 5 à la minute. Bah, c'est moins bien que la petite d'hier.
Merci Pierre-Marc de Diazy. On vous retrouve donc à demain à 9h05. J'oubliais
le dernier rendez-vous de cette matinale, la chronique de Pierre-Marc de Diazy. C'est tout de suite le lexique de l'actuel, le mot du jour, espace public.
Est-ce parce que nous avons un gros problème avec le temps ? Peut-être. En tout cas, à l'évidence, notre lexique donne une place de plus en plus large à l'espace. Pas celui de la conquête de l'espace, ce rêve-là était celui des années 60 et 70, à une époque où on croyait encore à l'avenir. Non, l'espace, ici et maintenant. L'espace détente, pour éviter le coup de barre sur l'autoroute. L'espace santé, où vous allez vous faire un check-up. Les espaces verts, l'espace habitable de votre voiture, etc. À la fois un espace qui est à vous, un espace privé, mais un espace à soi qui s'imbrique dans celui que vous partagez avec les autres. Quelque chose qui désigne l'étendue que nous avons en commun avec autrui et qui peut servir de métaphore, d'image, pour désigner la superficie et les arbitrages du vivre ensemble. Et alors, il va falloir parler de l'espace public. La notion d'espace public est absente de la plupart des dictionnaires, ce qui n'empêche pas d'être utilisée en permanence par les politiques et les médias pour parler du fonctionnement de la démocratie. Pourquoi ce succès ? Et d'abord, d'où vient la formule ? On la doit au philosophe allemand Jürgen Habermas, qui l'a lui-même emprunté à Emmanuel Kant, lequel en est apparemment l'inventeur. Habermas définit l'espace public comme la sphère intermédiaire qui s'est formée historiquement, au moment des Lumières, entre l'État et le monde social. L'espace public serait ce lieu accessible à tous, où le public s'assemble, pour exprimer une opinion publique, un équivalent moderne, si on veut, de l'agora ou du forum de l'Antiquité. L'endroit où l'on débat des problèmes d'intérêt généraux, le lieu où se formule et s'exerce le pouvoir de l'opinion. Donc l'espace public est ce lieu symbolique où se confrontent les opinions, en principe contradictoires, qu'expriment les différents acteurs politiques, sociaux, religieux, intellectuels, culturels, qui constituent la société. En tant que tel, l'espace public n'est pas quelque chose qui se décrète. Il faut du temps pour que se forme un lexique commun, des valeurs partagées, une reconnaissance réciproque, une idée des légitimités, bref, un certain consensus. Habermas estimait que ce mécanisme de concertation démocratique avait été perverti par l'apparition d'une forme d'État-providence qui ne laissait plus aucune initiative à l'espace public. Comme l'État a plutôt tendance aujourd'hui à être de moins en moins providentiel, on peut s'attendre à ce que l'espace public reprenne toute sa place dans le jeu démocratique, mais un espace beaucoup plus large qu'à l'époque des Lumières, car entre-temps, la démocratie est devenue une démocratie de masse, dans un contexte qui est celui des technologies de la communication. Or, c'est ce contexte qui fabrique la matière même de cet espace. Si vous parlez de forum aujourd'hui, qui pensera à Cicéron, à Rome ou à l'Antiquité ? Non, le forum est sur Internet, ou sur les plateaux télévisés, ou à la radio. En d'autres termes, l'espace public est indissociable d'une omniprésence de l'information, et naturellement de la désinformation, des sondages, du marketing et de la publicité. L'espace public pourrait bien être celui de l'audimat. L'espace public n'est pas localisable parce qu'il est coextensif à la pure virtualité du flux. Donc, l'espace public suppose bien l'existence d'un espace privé, d'un sujet autonome et responsable, et il serait ce lieu à la fois symbolique et virtuel où se confrontent les opinions en vue d'un consensus, mais le tout à travers des canaux, des outils de communication, des standards, des normes et des matériels qui constituent aussi l'infrastructure essentielle des marchés, des biens et des services, l'espace des échanges et de la publicité. Est-ce un hasard si le succès de l'expression « espace public » est proportionnel au déclin de cette autre expression qui contient aussi le mot public, « service public » ? Un vieux truc de l'État-providence. Au contraire, ce qu'il y a de bien dans l'expression « l'espace public », c'est qu'elle parle à l'imagination, on rêve d'espace, d'air pur, de liberté. Si l'espace public est une formule à la mode, c'est qu'elle contient à la fois une valorisation de la liberté individuelle, une image de la transparence, l'idée du droit que chacun aurait à afficher publiquement ce qu'il est et ce qu'il pense, mais au même moment, cet espace ne se construit qu'à travers des moyens de communication dont l'ultime raison d'être est la logique du marché et le conditionnement publicitaire des mentalités. Ça fait un peu penser aux mots d'Andy Warhol, il arrivera un moment où chacun aura le droit de dire tout ce qu'il pense, Mais alors, tout le monde pensera la même chose. Méfions-nous. Et notons que ce syntagme en cache un autre, au moins aussi obscur, sous ses dehors de lumineuse transparence, et tout aussi fréquent dans le langage des politiques et des médias, le fameux concept de société civile.
C'est le dernier rendez-vous de la matinée, la chronique de Pierre-Marc Debiasi, le lexique de l'actuel, un peu en rapport avec ce dont on a parlé, parce qu'aujourd'hui, le mot, c'est société civile.
Parmi les formules les plus déconcertantes de notre lexique, il faut faire une place d'honneur à l'expression société civile. Vous ne trouverez pas souvent de discours politique où ce syntagme ne soit pas abondamment utilisé, d'ailleurs toujours en bonne part, et toujours affiché comme le recours démocratique ultime, la référence qui prouve que l'orateur n'a d'autre ambition que le bien commun. Mais que veut dire société civile ? Est-ce qu'on désigne par là l'espace de l'action et du débat politique, une notion qui correspondrait, si l'on veut, à l'idée d'ailleurs tout aussi imprécise d'espace public ? Ou bien faut-il penser au contraire que la société civile désigne ce qui reste à l'extérieur du politique, tout ce qui constitue la société, en dehors de ce que contrôle l'État ? En fait, l'ambiguïté de l'expression vient de son histoire. De l'Antiquité au XVIIIe siècle, la notion de société civile recouvre l'idée de société organisée par opposition à l'état de nature. En latin, civilis societas, société civile, est presque synonyme de res publica, république, chose publique. C'est la Révolution française et son concept d'état-nation qui renverse la situation en instituant une autre opposition. D'un côté, l'État, la sphère de la chose publique, le gouvernement qui possède l'autorité et qui organise, et de l'autre, la légitimité du privé, la société telle qu'elle existe en elle-même, sans l'État. En 1821, dans les principes de la philosophie du droit, Hegel donne au concept de société civile son sens moderne en le systématisant, un espace distinct et opposé à la sphère du politique. On est au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle, à l'État de régir le politique, à la société civile de promouvoir l'économie. Mais le problème, évidemment, c'est que si la forme de cet État est démocratique, alors le pouvoir politique émane de la société civile qui exerce sur lui son contrôle et ses sanctions. Dès lors, qui commande à qui ? Qu'est-ce que serait une société civile démocratique si on devait la définir comme une sphère dans laquelle était absente la vie politique ? Or, toute l'ambiguïté est là. Il y a dans la promotion du concept de société civile une sorte de phobie implicite de l'État. On veut y voir la vie sociale organisée selon sa propre logique, notamment associative, et tous les processus qui assurent la dynamique professionnelle, économique et culturelle de la société, à l'exception de la puissance intrinsèque de l'État. Valoriser la société civile, en faire le modèle même de ce qui est honnête, généreux, efficace, désintéressé, en faire le recours ultime de la démocratie, c'est confirmer implicitement une dévalorisation de l'autre pôle, celui de la politique et de l'État, c'est-à-dire la représentation démocratique, le jeu parlementaire, l'activité des partis politiques. Il ne faut pas s'y tromper, il y a là une logique tout à fait claire, celle du moins d'État, qui est au cœur de l'ambition libérale, le projet de faire passer pour démocratique un consensus sur l'idée que ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est un désengagement progressif de l'État dans tous les domaines où il peut être remplacé par la société civile. Or, il y a là deux impostures, intimement liées, une imposture sociale et une imposture politique. La première imposture est dans l'effacement des clivages sociaux et des antagonismes. Le singulier collectif de la société civile sert à faire oublier que la société est profondément inégalitaire et qu'il relève justement de la responsabilité de l'État démocratique de réduire les inégalités. Ramenée à elle-même et à sa propre logique, la société civile ne serait pas loin, paradoxalement, de ressembler à l'état de nature, c'est-à-dire à la loi du plus fort. La seconde imposture est politique, mais elle sert au fond les mêmes intérêts. Il est très utile pour toute autorité politique, et plus encore pour les partisans d'une politique autoritaire, de faire croire qu'il existe une société civile capable de lui faire contrepoids. C'est sur ce fantasme d'une force capable de se dresser contre la politique politicienne que repose la stratégie populiste pour construire ses propres stratégies de prise de pouvoir dans la sphère du politique. À ce jeu, tout est bon et tout est permis, et en premier lieu ce qu'autorise, ou plutôt ce qu'exige aujourd'hui, la dimension essentiellement médiatique de la vie politique. L'expression de la société civile est l'opinion, le consensus. Mais cette expression et ce consensus se trouvent soumis à la logique des médias, c'est-à-dire à l'omniprésence d'un diktat qui en est la caricature, la loi de l'audimat, la toute-puissance du modèle publicitaire.
Il est 9h passées de quelques secondes.
Dernier rendez-vous de la matinée, la chronique de Pierre-Marc Debiasi, le lexique de l'actuel et le mot du jour, c'est partenaire.
C'est fou le nombre d'expressions agaçantes. Tenez par exemple, vous avez remarqué la montée en puissance du partenariat ? Aujourd'hui, inutile d'envisager de faire quoi que ce soit de sérieux sans se poser d'abord la question, oui, mais avec quel partenaire ? Et attention, pas n'importe quel partenaire. Un partenaire avec qui on va pouvoir conclure un accord gagnant-gagnant. Parce que c'est ça, le partenariat. Tout le monde s'y retrouve, chacun tire son épingle du jeu, et c'est convivial. Même les entreprises de déménagement n'osent plus s'appeler bêtement des entreprises de déménagement. Non, sur Internet, on dit « réseau de partenaires déménageurs ». À propos d'Internet, vous savez combien de sites et de pages web sont consacrés en France au concept de partenaire ? 110 millions. Autrement dit, il y a presque deux fois plus de partenaires français que de français. Il est vrai que chacun peut être le partenaire de plusieurs partenaires. Alors forcément, c'est dans le commerce et l'industrie que l'on trouve la plus formidable concentration de partenaires. Par exemple, dans des formules obscures comme « programme partenaire ». Allez, je ne résiste pas au plaisir malsain de vous citer un petit cauchemar textuel sorti d'Internet qui va vous donner la nausée pour toute la journée. Je cite. Nous développons des partenariats de collaboration avec un grand nombre d'entreprises. Partenaires revendeurs, partenaires technologiques, partenaires institutionnels, partenaires communication, partenaires informatiques, partenaires soutien à l'équipe projet. Nos partenaires revendeurs commercialisent ainsi nos produits dans le monde entier. Nos partenaires technologiques travaillent avec nous pour rendre plus performante l'attractivité de nos produits, etc. Tous nos partenaires sont gagnants. Bref, le mot plaît terriblement. Normal, partenaire vient directement de l'anglais partner. Ça fait libéral et anglo-saxon. C'est cool, c'est un mot gagnant, et même gagnant-gagnant. Mais en même temps, avec son petit E central qui date du XVIIIe siècle, c'est un mot bien de chez nous. Au sens usuel, partenaire désigne celui avec qui on est associé dans une affaire, une entreprise ou une négociation. Cet usage-là, c'est Beaumarchais qui l'a introduit dans notre langue en 1781. Évidemment, 8 ans avant la Révolution, il était sûrement loin d'imaginer que le mot servirait un jour dans des formules lénifiantes et mystérieuses comme discussion entre partenaires sociaux. Mais justement, ce qu'il y a de merveilleux dans le mot partenaire, c'est qu'il fourmille de connotations sympathiques qui nous feraient presque oublier la violence des affaires et des rapports de classe. Dire partenaire, c'est réenchanter le monde, ou au moins ajouter un peu de douceur et de fantaisie à notre brutale réalité. Par exemple, ça fait penser au jeu. Depuis 1773, partenaire désigne la personne avec laquelle on joue, à deux, contre deux adversaires. Par exemple au bridge, ou au tennis, pour les parties en double. Donc quand on dit partenaires sociaux, pour dire syndicat et patronat, on veut dire qu'ils jouent du même côté du filet. Mais alors, ils jouent contre qui ? Autre usage aimable du mot partenaire, son sens premier d'ailleurs, dû à Madame Budéfant en 1767, la personne avec qui l'on forme un couple quand on danse. Il n'y aurait pas un peu de ça dans le nouveau dialogue social ? En 2004, le baron Selière déclarait au Figaro Magazine « Je suis frappé par la lucidité des analyses faites au sommet dans les syndicats sur la nécessité de réformer par le dialogue social. » Est-ce que c'est pas de la sympathie ça ? Presque de l'amour ? D'ailleurs pas étonnant, on commence par danser ensemble et puis... Et puis c'est un des sens avérés du mot partenaire que de vouloir dire aussi celui ou celle avec qui on a des relations sexuelles. C'est ce coquin de Stendhal en 1822 qui avait inventé cet usage-là, d'ailleurs toujours très actif sur les messageries roses. Non, ben d'accord, là je m'égare, il n'y a pas d'affaire de sexe entre les partenaires sociaux ou alors très sublimés comme au football. Le vieux vocabulaire administratif de 72 est très clair, je cite, « partenaires sociaux, le patronat et le salariat qui sont les interlocuteurs des pouvoirs publics ». Donc pas d'erreur, d'un côté du filet il y a les partenaires sociaux et de l'autre côté du filet il y a les pouvoirs publics. Ils sont adversaires mais c'est un jeu, une sorte de match. Les deux équipes ne se veulent aucun mal, au contraire. Le seul problème c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle équipe a gagné. Au fond d'ailleurs, quelle importance, c'est le spectacle qui compte. En 1903, Anatole France avait eu l'idée d'un nouveau sens pour le mot partenaire. La personne avec laquelle on se produit dans la présentation d'un numéro au spectacle ou à qui on donne la réplique au théâtre ou au cinéma. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la télé, ni l'info en continu. extra lucide, le camarade Anatole France.
Il est 9h sur France Culture, tout rendez-vous de la matinée, la chronique de Pierre-Marc de Biasi, le lexique de l'actuel, et aujourd'hui le mot c'est, ou plutôt l'expression, c'est reconduite à la frontière.
Depuis que l'euro a remplacé le franc, forcément ce n'est plus gravé sur nos pièces de monnaie, ni imprimé sur nos billets de banque, mais ça reste encore inscrit sur le fronton de nos édifices publics et sur l'entête de quelques documents officiels. Je veux parler de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il y aurait beaucoup à dire, évidemment, de chacun de ces trois termes en particulier, mais il y a déjà à se demander ce qu'ils deviennent ensemble. Liberté, égalité, fraternité, c'est un tout, on ne choisit pas, on ne fait pas son marché, c'est l'ensemble qui est à prendre ou à laisser. En principe, si on se considère comme citoyen français, non seulement on prend les trois, mais on y croit. Je veux dire, on croit pleinement à chacun de ces trois concepts et on croit à ce que produit leur rapprochement. C'est un peu comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La somme des trois fait plus que leur simple addition. La politique, c'est comme la religion, ça sert à croire et à faire croire pour faire du lien. Il faut qu'il y ait un peu de mystère dans les valeurs qui nous unissent. La formule « liberté, égalité, fraternité » est consacrée par deux siècles de tradition. On a un peu hésité sur fraternité, mais en gros, le mot d'ordre est né en pleine période révolutionnaire, entre 1789 et 1795, et là, on le voit tout de suite, il y a plusieurs choix possibles. Soit vous prenez les trois idées dans le maximum de leur extension, dans l'universel, en vous calant sur 1789, l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la révolution bourgeoise, la liberté d'entreprendre et de penser, l'égalité politique et juridique, la fraternité abstraite d'une même appartenance au tiers-état, toute classe confondue, dans une même entité fraternelle, le peuple. C'est abstrait, ça marche toujours. Soit vous sautez quatre cases et vous vous calez sur 1793. La France menacée d'extermination par toutes les dynasties royales, l'ennemi aux frontières, la levée en masse, l'irruption des classes pauvres dans l'histoire, l'égalité sociale, la résistance armée, la liberté ou la mort, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, la fraternité révolutionnaire, la victoire, mais aussi la guillotine, le roi décapité, le comité de salut public, la terreur, le terrorisme d'État. Alors là, attention, ça fait un peu syrien. Rien qu'avec des mots comme ça, vous vous retrouvez vite avec votre téléphone sur écoute. Et puis vous avez la troisième option. Vous vous calez sur la République d'après Thermidor. La réaction antiterroriste, le sursaut des libertés locales, une liberté d'entreprendre pleine et entière, mais une liberté politique surveillée, l'égalité formelle devant les tribunaux, mais la fin du rêve d'une égalité sociale, la fraternité du bivouac et de l'expansion militaire, une république autoritaire qui mène tout droit au consulat et à l'empire. Au total donc des libertés publiques restreintes, un libéralisme économique sans entrave, mais une égalité strictement encadrée par le code civil, et la fraternité consensuelle du plébiscite qui met fin presque légalement à la république. Trois façons de dire liberté, égalité, fraternité. D'une certaine façon, toute l'histoire politique française, au XIXe et au XXe siècle, a consisté à savoir où placer l'accent tonique. Quand les gouvernants ne trouvaient pas la bonne intonation au bon moment, on les renversait. Soit gentiment, par des élections, soit manu militari, par une révolution. Et aujourd'hui alors, où est-ce que nous en sommes? Du côté de la liberté, ça va. L'horizon se dégage, on commence à respirer, surtout pour la liberté d'entreprendre. Moins d'impôts, moins de formalités pour créer sa petite entreprise, moins de subventions pour les entreprises qui ont cessé d'être rentables, à chacun selon ses capacités d'innovation. On est libre de s'enrichir, la seule obligation c'est de faire du profit. Pour les libertés publiques, il faut rester prudent. Il y a le terrorisme, il est à nos portes et même aux portes de nos villes, ça mérite bien qu'on fasse des sacrifices. Et l'égalité ? Là, il y a peut-être aussi un petit souci. Finalement, l'égalité n'est peut-être pas le mot le mieux choisi. Devant la loi, d'accord. Il y en a toujours qui vont en vouloir plus. Ce n'est pas sain, parce qu'au fond, il faut être honnête, les gens ne sont pas égaux. Bon, on va leur donner l'égalité des chances. Mais au total, il vaudrait mieux parler d'équité. L'équité, d'accord. À chacun selon ce qu'il mérite. On n'y peut rien, même dans la nature, c'est comme ça. Et la fraternité? Ah, la fraternité, elle ne s'est jamais mieux portée. Tous derrière les bleus. Vous avez vu en juillet sur le stade? Il n'y avait plus ni noir, ni arabe, ni blanc. Que des Français. Et sur les gradins, pareil. Plus de riches, ni de pauvres. Et devant les télévisions, pareil. Tous unis dans un même élan fraternel. Même les sans-papiers étaient fiers d'être Français. Ils en auraient presque oublié qu'au même moment, entre deux très beaux matchs, on venait de voter leur reconduction automatique à la frontière.